Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. L'Égypte sous le choc au lendemain d'une opération des forces de sécurité au sud-ouest du Caire. Au moins 52 policiers tués dans une embuscade islamiste. Nous ferons le point avec notre correspondant François Humfer-Kataji au début de ce journal. L'Espagne prépare la prise de contrôle au moins partielle de la Catalogne. Conseil des ministres extraordinaire en ce moment même à Madrid. La mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution au cœur des débats. Mathieu de Taillac va nous expliquer les différents scénarios. La République tchèque termine de voter pour les élections législatives et c'est un milliardaire populiste qui rappelle un certain Donald Trump qui pourrait remporter le scrutin. Correspondance à suivre d'Alexis Rosenweig. En France, Sandrine Rousseau et son association Parler lancent une campagne de financement participatif. Objectif, aider les femmes victimes de violences sexuelles dans leur parcours judiciaire. Nous entendrons l'ex-députée écologiste. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Anne-Laure Chouin. L'Égypte, endeuillée après l'embuscade islamiste d'hier au sud-ouest du Caire, dans le désert libyque. Au moins 52 policiers ont été tués. Il y a également 6 blessés. Les forces de l'ordre s'étaient rendues dans cette région isolée pour vérifier un renseignement sur la présence dans une maison de 8 militants du groupe ASM. La correspondance au Caire de François Humfer-Kataji.
Silence assourdissant en Égypte après la lourde attaque qui a visé des policiers dans l'ouest du pays. Si de nombreux intellectuels et artistes s'émeuvent sur la toile, le ministère de l'Intérieur, lui, ne donne toujours pas de bilan officiel ni de détails sur les circonstances du drame. Seules des sources anonymes parlent de plus de 50 victimes, 18 officiers de police et 35 conscrits. Il pourrait s'agir de l'une des attaques les plus meurtrières contre les forces de sécurité depuis 5 ans. Une attaque parfaitement préparée, seulement un petit nombre d'assaillants auraient été tués. Un convoi de policiers traquent des militants extrémistes dans l'oasis de Bahariya, à environ 300 km du Caire. Ils sont pris dans un guet-apens, des engins explosifs visent le convoi, puis un échange de tirs. Selon une source proche des services de sécurité, les policiers ont même été victimes de tirs de roquettes. Dans un premier temps, une revendication du groupuscule ASM a circulé dans les médias, il s'agissait d'un faux. La zone pourrait abriter des militants de l'État islamique, mais aussi de Al-Murabitoun, un groupe lié à Al-Qaïda, une zone autrefois connue des touristes pour ses collines noires, composé de quartzite, une zone qui se trouve aussi à quelques dizaines de kilomètres du lieu où un bus de copte a été attaqué en mai dernier, faisant 24 victimes. De telles attaques contre les forces de sécurité ont parfois, voire souvent, lieu dans le Nord Sinaï, mais beaucoup plus rarement dans les oasis proches du Caire. Elles posent la question de la lutte armée contre l'État égyptien, qui ne faiblit pas et s'étend désormais hors du Sinaï. Un peu plus de 3000 policiers ou militaires ont été tués depuis 2013 en Égypte.
Correspondance au Caire de François Humfer-Kataji. Cette attaque contre les forces de sécurité égyptiennes, elles interviennent au moment où le président Al-Sisi assiste aujourd'hui aux commémorations des 75 ans de la bataille d'El Alamein, bataille qui marqua une victoire décisive pour les alliés contre les forces fascistes lors de la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État égyptien assistera à ce déplacement, mais il a annulé ses autres engagements pour la journée. En Afghanistan, le bilan est aussi revu à la hausse après l'attentat d'hier dans une mosquée chiite de Kaboul. Il y a désormais 56 morts, attentat revendiqué ce matin par le groupe État islamique. Alors que la réconciliation palestinienne avance entre le Hamas et le Fatah, Israël vient d'autoriser plus de 2000 logements supplémentaires pour les colons en Cisjordanie. 2017 est une année record. Même la ville d'Hébron, qui a pourtant la réputation d'être une poudrière, va pouvoir construire 31 logements supplémentaires après 15 ans de gel. Cette décision a fait réagir les opposants israéliens à la colonisation. Le reportage d'Étienne Monin, notre correspondant permanent à Jérusalem.
Dans l'ambiance fantomatique des rues d'Hébron, devant les quelques dizaines de militants, on voit à la fois le rapport de force très favorable aux colons et le degré de tension entre les deux camps. L'organisation israélienne La Paix Maintenant est venue dénoncer l'emprise grandissante des colons. Un certain nombre de freins ont lâché autour du premier ministre, dit Hagit Ofra.
L'impression maintenant, c'est que Netanyahou n'a plus de limites et qu'il se permet de lancer beaucoup de projets qu'il avait freinés auparavant.
Pour l'organisation, les nouvelles autorisations compliquent encore plus un éventuel règlement négocié du conflit. Elles servent à recaser les habitants de colonies démantelées et elles relancent la construction dans la ville d'Hébron. C'est un début, dit sur place le porte-parole des colons, Ishai Fleischer.
Pour nous, c'est un pas important d'avoir un immeuble où on peut installer 30 familles, mais on a beaucoup plus d'ambition. Donc pour nous, c'est le minimum.
L'administration Trump Trump aujourd'hui ne s'oppose plus à la colonisation. Elle compte sur la retenue du Premier ministre qui se présente depuis plusieurs mois comme le meilleur défenseur des intérêts des colons.
Reportage signé Étienne Monin. En Espagne, le gouvernement est donc réuni en Conseil des ministres extraordinaire, réunion de crise, quasiment trois semaines après le référendum controversé sur l'indépendance de la Catalogne. Madrid devrait décider de reprendre en main certaines compétences dévolues à la région. Nous ne voulons pas renoncer à ce que nous avons construit ensemble. Le roi Felipe VI s'est de nouveau engagé hier contre cette tentative inacceptable de sécession, c'est ce qu'il a précisé. Mathieu de Taillac, vous suivez ce Conseil des ministres et vous nous expliquez les différents scénarios.
Le Conseil des ministres doit décider comment appliquer l'article 155 de la Constitution qui permet à Madrid de prendre le contrôle des autorités d'une région rebelle et de donner des instructions directement aux fonctionnaires. Cet article n'a jamais été appliqué depuis l'approbation de la Constitution en 1978. Du coup, personne ne sait réellement de quelle manière contrôler les institutions catalanes aujourd'hui aux mains des indépendantistes. Les analystes en sont réduits à des suppositions, des hypothèses. Certains croient que l'intervention se limitera à des domaines concrets, prendre le contrôle de la police régionale par exemple, mettre la main sur les finances de la région, voire fixer des règles à la télévision publique régionale accusée de favoriser le camp des indépendantistes. Une autre possibilité serait de destituer le président catalan, Carles Puigdemont, et l'ensemble de ses ministres régionaux. C'est l'hypothèse que formule le journal El País ce matin. Un représentant technique serait nommé pour coordonner le travail en Catalogne et chaque ministère espagnol prendrait le contrôle du département correspondant au sein de l'administration catalane. La police régionale, par exemple, passerait du département catalan de l'intérieur au ministère espagnol de l'intérieur. On s'attend enfin à ce que cette mise sous tutelle dure 2 ou 3 mois, puis que des élections régionales soient convoquées en Catalogne.
Précision de Mathieu de Taillac. En parallèle, Barcelone maintient la pression. Le chef du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, menace de faire proclamer l'indépendance de sa région si l'autonomie est suspendue. Une grande manifestation est par ailleurs prévue à 17h. La République tchèque, pays membre de l'Union européenne mais qui n'appartient pas à la zone euro, vote également ce samedi. Les élections législatives sont en train de se terminer. 31 partis et groupes politiques ont présenté des listes de candidats. Le mouvement populiste ANO, qui veut dire oui en tchèque, devrait recueillir entre 25 et 30% des suffrages selon les sondages. À sa tête, le milliardaire Andrej Babiš, qui rappelle un certain Donald Trump. Alexis Rosenzweig.
Andrej Babiš donné vainqueur, seule l'ampleur de son succès reste une inconnue pour les commentateurs pragois avant les résultats samedi soir. Sa campagne contre la corruption et contre l'adoption de l'euro aura souffert d'un scandale de fraude aux subventions européennes qui lui a valu d'être mise en examen. Le milliardaire populiste, parfois comparé à Donald Trump, n'a pas hésité à faire de la surenchère sécuritaire dans ses spots et meetings électoraux. La concurrence est rude dans le domaine. La majorité des formations politiques tchèques rejettent toute idée de quotas de réfugiés dans ce pays qui n'a pas été touché par la crise migratoire et dont l'économie affiche une forme insolente. Les tractations post-électorales s'annoncent difficiles pour la formation d'une coalition viable. Certains partis, à droite comme à gauche, refusant de gouverner avec Babiš et lui refusant notamment de gouverner avec l'extrême droite xénophobe soutenue par Marine Le Pen. Il pourra en tout cas compter sur un allié de poids en la personne du président de la République, connu pour ses positions pro-russes. Miloš Zeman a déjà indiqué qu'en cas de victoire d'Andrej Babiš, il le nommerait Premier ministre, et ce, même s'il était en prison.
Alexis Rosenzweig, le correspondant de RFI pour France Culture. En France, alors que les accusations de harcèlement sexuel et les plaintes se multiplient après le scandale Weinstein aux États-Unis et l'appel à libérer la parole via Twitter, mais quelle traduction judiciaire ? Il existe déjà tout un arsenal juridique qui permet d'engager des poursuites, mais la véritable difficulté, c'est la preuve. Écoutez ce qu'en dit l'ex-secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui avait elle-même accusé de harcèlement le députée de Paris, Denis Baupin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour permettre à son association Parler d'accompagner les victimes de violences sexuelles.
Il faut quand même transformer cette émotion qui ressort, cette colère, cette espèce de ras-le-bol, de déballage, en vraiment un mouvement de société. 1% simplement des auteurs d'agressions, de viols et de harcèlement sont condamnés. Ça veut donc dire qu'on est dans un tabou social. Donc il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet-là pour que on sorte de la revendication pour juste être dans une société de droit, quoi. Aujourd'hui, en France, un parcours judiciaire, c'est un parcours du combattant pour les femmes. Et je le dis, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que les femmes, déjà, ne sont pas accompagnées durant tout ce parcours, alors que ce sont des violences qui sont parfois très traumatisantes pour les femmes. Leur parole est très souvent mise en doute. Les procureurs classent très souvent les affaires sans même enquêter. La justice n'a pas les moyens d'enquêter sur ces affaires, alors qu'un tout petit peu d'enquête permettrait vraiment de faire le jour sur la réalité de ce qui s'est passé. Et donc là, on a besoin que la justice considère ces délits et ces crimes à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des délits et des crimes. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, ça nécessite de mieux appliquer les textes qui sont pour l'instant existants, ça nécessite d'améliorer les textes, notamment sur le dépôt de plainte et la prescription, ça nécessite de donner des moyens à la justice d'enquêter. Et puis après, cette espèce de mouvement social se transformera dans les entreprises, dans les associations, dans les familles, la rue, etc., en un plus grand respect des femmes, en fait.
Des propos recueillis par Sarah Petitbon. L'Assemblée nationale vient de voter par 65 voix contre 14 l'une des mesures phares du budget 2018, la suppression sur 3 ans de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Il est 12h41 sur France Culture.
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
Après les annonces d'Emmanuel Macron sur la pauvreté en début de semaine, vous revenez, Anne-Laure, sur les effets et les limites de ces politiques de lutte contre la misère.
Bonjour. Un grand plan de lutte contre la pauvreté, et plus particulièrement celle des enfants, c'est ce qu'a annoncé en début de semaine Emmanuel Macron, sans chiffres ni mesures précises pour l'instant, mais avec une promesse, une approche nouvelle. En France, les politiques de lutte contre la pauvreté se sont généralisées dans les années 80, lorsqu'on a commencé à se rendre compte que croissance économique ne rime pas forcément avec éradication de la pauvreté, et même que cette croissance entraîne parfois de nouvelles formes de pauvreté. Ces politiques se sont appuyées sur 3 piliers, l'aide à l'accès au travail, l'aide aux revenus et l'aide à l'accès aux droits fondamentaux comme le logement ou la santé. Avec plusieurs limites, d'autant que, comme le précise cette petite vidéo de France Télévisions intitulée « Qui sont les pauvres ?»
La pauvreté est donc une situation correspondant à un cumul de facteurs, ce qui rend son éradication d'autant plus complexe.
Alors ces derniers jours, plusieurs médias se sont fait l'écho d'études menées il y a déjà quelques années par des chercheurs notamment du Poverty Action Lab, un réseau affilié à une 50aine d'universités dans le monde. Leurs résultats stipulent, en résumé, que ce dont les pauvres ont surtout besoin, c'est d'argent. Et puis c'est tout. Ou presque. Chris Blattman, par exemple, professeur de politique publique à l'Université de Chicago, raconte dans un article du New York Times intitulé « Let them eat cash », qu'ils mangent donc de l'argent, pourrait-on traduire en paraphrasant Marie-Antoinette et sa brioche. Il raconte donc comment, en Ouganda, on a donné, tout simplement donné, $400 à un groupe de jeunes pauvres, soit l'équivalent de leur revenu annuel. Au bout de 2 puis de 4 années, on s'est aperçu que la moitié d'entre eux avaient une activité professionnelle et que leurs revenus étaient en moyenne 38% plus élevés que ceux d'un groupe de contrôle qui n'avait rien reçu au départ. Des résultats encore plus élevés avec les femmes. Les mêmes expérimentations ont été menées avec des familles mexicaines, des villageois kényans, des étudiantes du Malawi, etc. Avec les mêmes résultats, une partie vit tout simplement mieux et souvent, les bénéficiaires montent une entreprise, créent leur emploi et finissent par sortir de la pauvreté. Pourtant, les différents programmes d'aide au développement et de lutte contre la pauvreté partent souvent du principe que l'aide financière allouée doit l'être en échange de quelque chose, sous condition, alors qu'il est, selon ces expérimentations, plus efficace de donner l'argent directement aux pauvres sans lier ce don à quoi que ce soit. Alors me direz-vous, pourquoi, mais pourquoi donc ne pas y avoir pensé plus tôt? Peut-être parce que, comme le chantait Coluche en son temps,
l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses, convenons-en.
Et oui, nous pensons que ce dont les pauvres manquent, ce n'est pas d'argent, mais d'autres choses, une autre chose qui serait l'explication de leur incapacité à gagner de l'argent. C'est ainsi que, par exemple, nous préférons souvent donner un sandwich à la personne qui vit dans la rue plutôt que des euros, persuadés que nous sommes qu'elle préférera dépenser ses euros dans de l'alcool ou de la drogue. Or, il s'avère dans d'autres expérimentations que de l'argent distribué, y compris à des populations comportant de nombreux toxicomanes, est souvent correctement utilisé. Ce biais est très humain et il porte un nom, l'erreur fondamentale d'attribution. En gros, cela signifie que nous préférons toujours penser que la situation d'une personne est due à la personne elle-même et non pas à des causes extérieures. Ce dont manquerait d'abord et avant tout les pauvres, c'est donc d'un capital. Or, ce que proposent la plupart des programmes publics de lutte contre la pauvreté, ce sont les outils pour utiliser ce capital, comme si l'on donnait à un marcheur des lacets en oubliant de lui fournir des chaussures.
Merci Anne-Laure Chouin. La bulle économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, un temps maussade avec de la pluie sur la majeure partie du pays, ciel plus ensoleillé sur la côte d'Azur et la Corse. Et les températures, 12 à Brest, 14 à Lille, Paris et Strasbourg, 15 à Bordeaux, 17 à Lyon, 18 à Marseille et jusqu'à 19 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Moussa M. Le Chili. À la technique, c'était Victoria Asper.